parler de la part de Dieu à son église. Et bien sûr, la première personne à qui je parle, je pense que c'est moi, forcément. Donc, faut savoir qu'avec Arnaud, on s'était partagé le temps. Donc, il a pris la moitié de mon temps la semaine dernière. Donc, je vais faire un message de 20 minutes. Non, ceci dit, je vais essayer d'être plus courte pour pas qu'on termine trop tard. J'ai intitulé mon message « Les imitateurs de Dieu ». Facile. En fait, je me suis dit, bon, c'est un message pour la rentrée. Bien sûr, la rentrée, c'était la semaine dernière, bien que pour certains, ils ne sont pas encore rentrés. Mais bon, c'est l'idée, c'est la période de la rentrée. Donc, pour une rentrée, ce qu'on veut, c'est un bon commencement. Je me souviens, à l'école, moi, j'aimais bien, enfin, comme beaucoup, hein, avoir ces nouvelles affaires. On veut acheter forcément des nouveaux stylos, même si les stylos de l'année dernière sont très bien. Mais on veut toujours des nouveaux trucs, on veut bien commencer. On veut, voilà, on est tout feu, tout flamme. On a des projets de fou. On va se lever à 6 heures. On va faire du sport avant d'aller à l'école. Enfin, bon, voilà, c'est un peu comme la nouvelle année, les résolutions. La rentrée, on se dit, purée, ça va, tout feu, tout flamme. Donc, je me suis dit, on va rester dans cette ambiance. On veut un bon commencement. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un bon commencement que les bases? Et en tant que chrétien, bah, je pense que c'est Jésus-Christ. Je crois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense. C'est aussi en écoutant Arnaud la semaine dernière. J'ai bien aimé tout ce qu'il a pu partager. J'ai découvert des choses, j'ai réentendu d'autres choses. Enfin, ça m'a fait réfléchir, donc c'est une bonne chose. J'ai pensé à ça parce qu'il a parlé de l'Apocalypse. Et entre autres, il a parlé de Jésus dans l'Apocalypse. Il a parlé de ce Jésus aussi, qu'effectivement, que Jean, entre guillemets, ne reconnaissait pas dans le sens où il avait connu le Jésus terrestre. Et là, il faisait face au Jésus céleste, on va dire, si je peux résumer comme ça. Et c'est, voilà, quelque chose de formidable et de puissant, d'assez impressionnant. Donc, voilà, je voulais qu'on parle un peu de Jésus, un peu beaucoup même. Et pourquoi parler de Jésus? Donc, j'ai dit, pour les bases, mais puisque Dieu nous demande d'être comme lui, d'être à son image. Dans Éphésiens 5, alors je vais essayer de prendre certains passages, il y en a, je vais juste vous les dire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal forcément de passages. Éphésiens 5, versets 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc voilà, vous voyez, j'ai piqué mon titre dans la Bible, « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». À l'exemple de Christ. Donc, Dieu nous demande d'être ses imitateurs et il nous a donné l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. On va essayer de parler de son caractère, son identité. Et justement, quelque chose qu'a dit Arnaud la semaine dernière m'a aidé à me dire « Ouais, c'est bon, vous êtes d'accord, c'est un sujet de base, tout le monde connaît Jésus. » Mais j'ai bien aimé ce qu'il a dit, c'est que quand on aime quelqu'un, on ne se lasse pas d'en entendre parler. Il avait donné l'exemple avec nos nouveaux mariés, David et Amélie. Hein. On peut parler de l'un à l'autre pendant des heures, ils vont être heureux. J'espère que c'est toujours le cas dans votre couple, même après 30, 40 ans de mariage. Mais voilà, quand on aime quelque chose ou quelqu'un, au final, on ne se lasse pas d'en parler. Et je pense que Jésus-Christ, non seulement c'est un sujet qui devrait nous passionner parce qu'on l'aime, mais en plus, j'allais dire, tout à l'heure, je vais faire un message court, mais ce serait le message le plus long du monde, étant donné qu'il est éternel et qu'on pourrait dire éternellement des choses. Mais je vous rassure, je ne vais pas parler éternellement. Voilà. Il y a aussi quelque chose qu'il a dit Arnaud, alors je cite beaucoup Arnaud là aujourd'hui, mais c'est pour faire le lien, je me dis comme ça il y avait un lien entre la semaine dernière et même cette semaine, avec les chants qui ont été pris, ça m'a confirmé qu'on était dans le bon. C'est une histoire qu'on a déjà entendue, mais vous savez que voilà, il l'a recité pour connaître pour différencier le vrai du faux. Qu'est-ce qu'on fait? On n'étudie pas le faux, on étudie le vrai. Donc du coup, moi je nous invite à étudier le vrai caractère que nous devons avoir, celui de Jésus-Christ. Pour le faire, j'avais fait, peut-être avec les filles, on en avait déjà parlé, ce que j'avais fait une fois, c'était sur la femme vertueuse, dans le Proverbe 31, fait un petit résumé de ce qu'était la femme vertueuse. Donc en fait, en lisant les versets, on en déduisait qu'elle était comme ça, parce que c'est pas marqué, elle est pas paresseuse, enfin si, peut-être ça c'est marqué d'ailleurs, mais bon bref. Parfois, on prend le verset et on résume ce que ça veut dire. Donc j'ai fait un peu le même principe pour Jésus, alors bon, je me suis aidée, parce que sinon, il faut que je lise toute la Bible en entier, faire des résumés, ça va être un peu difficile pour le faire, donc je me suis aidée d'un livre. Mais donc ça va être un peu l'idée, c'est de citer un peu les caractéristiques de Jésus. Alors je vais parler des caractéristiques du Jésus terrestre, du Jésus pleinement homme, et je vais aussi évoquer un petit peu le Jésus pleinement Dieu. Voilà, j'espère que ça va vous encourager. Je fais, avant de commencer, même si mon introduction était un petit peu longue là, un gros attention, dans le sens où on ne peut pas devenir comme lui par nos propres moyens, nos propres forces. Vous pouvez faire les efforts que vous voulez, vous ne serez jamais comme lui par vos propres forces, vos propres efforts, votre propre volonté. Peut-être que vous allez y arriver une heure, un jour, une semaine, mais voilà, parce que la chair est faible. Dans Jean 14, 15 et 16, il nous est dit. Si vous. Non, c'est pas ça. 15, 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. En anglais, il y a marqué. Une traduction dit je vous rends pour vous aider à être capable d'obéir. En fait, quand il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements, moi je prierai le Père. Donc, pour vous aider à être obéissant à cette parole de m'aimer et de garder mes commandements, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire comme attention, c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on peut devenir semblable à Christ. Ça fait aussi le lien avec les différents messages du pasteur sur l'amour de Dieu aussi en tant que disciple. On va à une étape supérieure. Garder les commandements, aimer Dieu. Enfin, voilà, j'en dis pas plus parce que vous avez dû les entendre. Alors, on y va. Donc, les caractéristiques de Jésus. Jésus était l'homme du livre. Il connaissait la parole de Dieu et il l'utilisait avec sagesse et discernement. Sa vie était caractérisée par la méditation de la parole. La Bible nous dit que on doit méditer la parole jour et nuit et que quand on est comme un arbre planté près des courants d'eau, quand on est proche de la parole, et on voit à plusieurs moments à quel point Jésus médite la parole. Il est capable de passer du temps avec son Père et d'utiliser la parole de Dieu à bon escient. Sa vie était caractérisée par l'adoration. Et l'adoration suprême, on peut le voir avec l'obéissance qu'il a eue d'aller jusqu'à la mort sur la croix. Jésus ne se conformait pas au monde. Donc dans Jean 17, il est dit, il prie pour ses disciples et il dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Donc on sait que Jésus ne faisait pas les choses comme le monde, mais comme son Père lui disait de faire les choses. Jésus ne combattait pas avec des armes charnelles. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas celui d'ici-bas. Donc, royaume différent, armes différentes. Sa vie était caractérisée par la perfection. Il n'y avait pas de péché en lui, il n'y avait rien que le diable avait en lui, et il n'a pas non plus commis de péché. Il avait une parfaite unité avec la volonté du Père. Alors là, je fais juste une petite parenthèse. On n'est pas parfait humainement, on est parfait en Christ, certes. Donc nous, on vise à être parfait, on vise l'excellence. Donc voilà, après, faut pas, encore une fois, c'est pas par nos propres forces, c'est par l'esprit qu'on peut y arriver. Ensuite, sa vie était caractérisée par la joie. Il avait la joie toujours de faire la volonté de son Père et la joie de sauver aussi le plus de personnes possible. Sa vie était caractérisée par la paix. La paix ne dépendait pas des circonstances. Peu importe ce qui se passait autour de lui, il était dans la paix. Pensez à la tempête, pensez aux gens qui menaçaient de le tuer. Il était dans la paix. Sa vie était caractérisée par la patience. La patience envers ses disciples. On pense à cette phrase quand il dit « Mais jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter ?» Parce qu'il en fallait de la patience. Et aussi envers les hommes de manière générale, aujourd'hui. Je pense que si vous pensez à vous-même déjà, vous dites « Il a de la patience avec moi, Seigneur. » Je pense qu'on peut chacun se reconnaître là-dedans. Sa vie était caractérisée par la bienveillance envers tous, pas d'exception. Sa vie était caractérisée par la bonté, même envers ses ennemis. Là, ça devient un peu plus dur. Sa vie était caractérisée par la fidélité. Jésus respectait, en tant qu'homme et aussi en tant que Dieu aujourd'hui, toujours ses promesses. Sa vie était caractérisée par la gentillesse. Par exemple, quand il dit, les disciples veulent le laisser se reposer, ils disent aux enfants de partir, il dit non, laissez venir à moi les petits-enfants. Là, vous devez reconnaître un petit peu, on est un peu dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Donc le feu de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, vous les retrouvez là. Donc sa vie était caractérisée aussi par la compassion. Plusieurs fois, on peut voir que dans les évangiles, Jésus était ému de compassion. Il a été ému de compassion, parce qu'il était ému de compassion, il a nourri une foule, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Sa vie était caractérisée par la douceur. Il était doux et humble de cœur. C'est des versets que vous, je pense, vous entendez, hein, vous reconnaissez. Il y a aussi le fait que dans la douceur, il y a aussi la docilité et l'obéissance à son Père. Sa vie était caractérisée par le service. Ça, il y en a beaucoup des exemples. Dans Luc 22, 27, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Dans Jean 13, 15, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » On pense aussi au leader serviteur qui a été évoqué par Olivier la semaine dernière et qu'on travaille. On est appelé à être des serviteurs. Sa vie était caractérisée par le pardon. Et ça, c'est quelque chose effectivement d'énorme, puisque sans le pardon, sans son sacrifice à la croix, ce serait bien plus compliqué. Et le pardon, je dirais, pas ultime, mais un pardon qui a été très fort aussi quand il était à la croix et qu'il a dit à ses bourreaux, enfin il a dit à Dieu, au propos de ses bourreaux, pardonne-leur. Dur, dur. Juste un petit attention, le pardon n'était pas automatique dans le sens où le pardon présuppose la repentance. Mais avant même que ses bourreaux aient pu demander pardon, lui avait déjà pardonné. J'ai trouvé une citation qui est jolie, enfin, elle fait réfléchir, enfin qui est jolie. Elle est bien tournée, mais quand on y réfléchit, c'est un peu dur. « Le pardon est le parfum qu'exhale la fleur piétinée par celui qui l'écrase. » Je vous la refais. « Le pardon est le parfum qu'exhale la fleur piétinée par celui qui l'écrase. » Voilà, je vous laisse réfléchir. Sa vie était caractérisée par le courage. Par exemple, il allait au-devant de sa mort. Il n'a pas couru dans l'autre sens, comme Jonas, par exemple, qui ne voulait pas forcément faire ce qui lui avait été demandé. Dieu avait demandé à Jésus d'aller à la croix, et il est allé avec courage. Sa vie était caractérisée par la justice. Il est juste et droit en toute chose. Alors, à chaque fois, je dis sa vie était, mais c'est parce qu'on parle de Jésus homme, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui est valable pour le Jésus ressuscité. Sa vie était caractérisée par l'altruisme. Jésus fait toujours passer l'intérêt de l'autre avant le sien. Il considère les autres comme au-dessus de lui-même. Dans Philippiens 2, 3, il a dit ça. Et ça, je pense que c'est un très bon exemple pour chacun d'entre nous. Penser à faire passer l'autre avant. Sa vie était caractérisée par la constance. Jésus était toujours égal à lui-même. Il n'est pas dirigé par ses émotions. Encore une fois, on retrouve un peu les circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui vont dicter son comportement. Sa vie était caractérisée par la détermination. Il avait un but, entre autres. C'était de chercher et sauver les perdus. Et il s'en est pas détourné. Il a tout fait pour que le plus grand nombre soit sauvé. Sa vie était caractérisée par la dignité. Il ne met pas les gens dans l'embarras. On pense au jeune homme riche qui est venu et qui lui a dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?»« Il faut aimer le Seigneur, le servir. Oui, je fais ça. Bon, alors il y a un autre truc, peut-être. Tout ce que tu as, va, donne-le aux pauvres. » Aïe. Là, il est parti, le jeune homme riche. Jésus ne l'a pas plus embêté que ça, j'ai envie de dire. Il ne l'a pas mis dans l'embarras. Il lui a juste dit « Bah voilà, enfin... » C'est dommage. Il n'est pas allé au-delà de dire simplement les choses. Sa vie était caractérisée par la courtoisie. J'ai trouvé ça marrant parce que c'est vrai, on n'y pense pas, mais voilà, le sens de la bienséance. Plein de grâce, un peu comme on dit, les bonnes manières. Alors parfois, c'est vrai qu'il n'était pas en accord avec, entre guillemets, les bonnes manières de l'époque, puisqu'il a fait certaines choses qui même nous choquent nous aujourd'hui et qui choquaient à l'époque. Mais c'était parce que c'était en contraire à la parole de Dieu. Mais à partir du moment où c'est dans la parole de Dieu, on retrouve par exemple le fait de mettre les autres avant soi-même, ça fait partie des bonnes manières. Jésus respectait tout à fait ça. Jésus était libre quant à l'argent. On en a parlé tout à l'heure. Entre guillemets, Jésus était SDF et pauvre. Normalement, il n'avait ni lieu où poser sa tête. Il n'avait pas une entreprise. priori, il travaillait le bois, mais je crois qu'après, pour ses années de ministère, il l'a pas refait. Donc bon, je sais pas tous les détails, je ne sais pas à fond, mais a priori, non. Et quand il avait besoin d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Un exemple, il demande à Pierre d'aller pêcher un poisson et de prendre la pièce de sa bouche. Sympa comme méthode. C'est juste pour dire qu'il savait que ce verset qui dit c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Il en était conscient. Et du coup, il ne se préoccupait pas de ça. Il était libre par rapport à tout ça. Sa vie était caractérisée par l'obéissance. Grand point. On en entend souvent parler. Et on sait que nous devons faire de même. Et ça, c'est la mort à soi-même. C'est dur. Jésus prenait plaisir à faire la volonté du Père. Il prenait plaisir à être obéissant. Sa vie était caractérisée par l'amour des perdus. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Même pour une seule brebis perdue, il va. Quand dans la parabole des brebis perdues, quand il n'y en a qu'une, il va la chercher. Même s'il doit escalader les montagnes là pour la récupérer au fond d'un trou, enfin, il va chercher. Est-ce que nous, des fois, on n'a pas souvent cette attitude? Jésus était l'ami des pêcheurs. Il y a beaucoup d'exemples où on voit où Jésus allait manger, allait partager du temps avec les pêcheurs. D'ailleurs, ça lui était souvent reproché par ceux qui se voulaient bien de l'extérieur. Sa vie était aussi caractérisée par le contentement. Visiblement, il se contentait de ce qu'il avait, il ne demandait pas plus. Et s'il avait besoin, il demandait à son père. Sa vie était caractérisée par la persévérance. Il a dû faire face à beaucoup de résistance, mais il a continué. Il a failli se faire lapider, il a failli être éjecté de plusieurs endroits, mais voilà, il a persévéré. Il savait qu'il devait annoncer le royaume de Dieu qui approchait. Il savait qu'il devait mourir à la croix. Il savait que de lui, de sa mort à la croix, dépendait la vie de ces milliards de personnes. Il a persévéré. Sa vie était caractérisée par le zèle. Le zèle, une poursuite sérieuse et ardente de la volonté de Dieu continuellement. Comme le psaume de David qui dit que le zèle de ta maison me consume, me remplisse. On est appelé à ça aussi. Sa vie était caractérisée par la reconnaissance. Ce n'est pas les circonstances, mais notre regard sur elles qui change. Et là, je voulais juste vous lire une petite histoire qui illustre ce point. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà entendu, mais je l'ai trouvé sympa. Un petit garçon du cours élémentaire est tombé un jour du bus de ramassage scolaire et sa tête a heurté le béton. Il a fallu 3 points de suture pour fermer la plaie. Puis, durant la récréation, il est arrivé un autre malheur. Du choc avec un petit camarade, il a perdu 2 dents et s'est fendu la lèvre. Ensuite, l'après-midi, il a fait une mauvaise chute et s'est cassé le bras. Le directeur de l'établissement a alors décidé de reconduire l'enfant chez lui avant qu'il n'arrive autre chose. Il roulait sur une route de campagne vers la maison du garçon quand le directeur s'est rendu compte que le petit serrait un objet dans sa main. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Une pièce d'argent. Qui te l'a donnée? Je l'ai trouvée aujourd'hui dans la cour de récréation. Vous savez, monsieur Chapman, je n'avais jamais trouvé une pièce d'argent. C'est mon jour de chance aujourd'hui. A-t-il expliqué d'une voix excitée le visage souriant. Tant de choses dépendent non de la manière dont la journée s'impose à nous, mais du regard que nous portons sur elle. J'ai trouvé cet exemple assez parlant. Parfois, on ne voit pas les choses comme ça. Souvent même. Donc voilà, Jésus avait ce regard de reconnaissance sur ce qui se passait de bon. Sa vie était caractérisée par la virilité. Alors là, justement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mince, ça veut dire que ça parle qu'aux hommes, mais je me suis rappelé que la virilité n'est pas quelque chose de purement masculin. Enfin, c'est pas à l'homme, mais c'est masculin, mais les hommes, les femmes peuvent l'être dans le bon sens du terme. Le fait de prendre des décisions, d'être, c'était quoi le mot? Ouais, initiateur. Enfin bref, normalement vous avez écouté le message. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'adresse aussi à nous. Sa vie était caractérisée par la prière. Là, je ne vous fais pas de dessin. Il y a des références après références sur le temps que Jésus passait dans la prière. Il se levait plus tôt pour aller prier. Il se mettait à l'écart. Il passait du temps. Et ça, on sait que nous devons, à plus forte raison, passer du temps avec le Père. Jésus ne jugeait pas selon l'apparence, mais selon la droiture et l'équité. Comme on dit, il savait que tout ce qui brille n'est pas d'or. On ne se fie pas à l'apparence. Il y a l'exemple du roi David, quand il a été sélectionné, il a dit au prophète, faut pas regarder à l'apparence, mais je regarde au cœur. Il y a la veuve qui a donné juste une petite pièce, mais elle a donné plus que celui qui avait donné largement, parce qu'il avait donné en plus, alors que la veuve avait donné de ce dont elle avait besoin. Et Jésus a vu ça. Il y a plein d'exemples où on voit ça. Sa vie était caractérisée par l'efficacité. pas de perte de temps. Faire les œuvres du Père. Là encore une fois, je mets une petite attention. Pas perdre de temps, enfin, l'efficacité, c'est pas synonyme d'activisme ou d'activité à fond, c'est courir tout le temps, et tout. Non, non, non. Être efficace, c'est faire les choses qui doivent être faites au moment où elles doivent être faites, et dans l'obéissance. Jésus, il savait se poser avec ses disciples, il savait s'arrêter pour manger avec ses disciples, il savait s'arrêter pour se reposer. Voilà, je mets juste aussi un petit point là-dessus, je pense que c'est important. On n'est pas appelé à courir dans tous les sens, mais à être efficace dans ce qu'on fait. À le faire bien et à le faire avec obéissance, à son exemple. Jésus s'intéressait aux gens, quelles que soient leurs conditions sociales. C'est vrai qu'il avait un cœur particulier pour les plus démunis, les rejetés du monde, ceux qui étaient mis à l'écart. Dieu avait un cœur particulier pour eux. Sa vie était caractérisée par l'acceptation de la souffrance. L'acceptation de la souffrance n'est pas une résignation fataliste face aux circonstances, mais la fermeté de les supporter jusqu'au bout. Je me souviens, quand j'étais à CFNI, à l'école biblique, on avait eu une interpellation, parce que c'était pas un message qui était prévu, mais c'était suite à un moment de louange, et on a vu un partage sur ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qu'on cherche, c'est à éviter la souffrance. C'est pas forcément le but. Bien sûr, faut pas la rechercher, on va pas se flageller, comme ça a pu être fait à une certaine époque, mais c'est juste de savoir que ça fait partie de notre vie. Et qu'il faut savoir la gérer. Comme le petit garçon, il s'est pas centré sur ce qui allait pas, il s'est centré sur les bonnes choses. Et la souffrance, on peut amener des bonnes choses. Il y a le verset qui dit dans Romains 5, 3, l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Il y a un autre verset, je l'ai pas retrouvé, je crois que c'est dans Pierre, qui dit que ça, l'épreuve produit la patience, etc. Enfin, ça s'ajoute. Enfin, voilà. Juste pour dire que, voilà, Jésus a accepté la souffrance. Et nous, on en a dans nos vies. On en a tous. Je peux demander à chacun d'entre vous, vous allez me dire, forcément, vous avez au moins un truc qui vous fait souffrir. Alors, je dis pas qu'il faut l'accepter et rien faire, mais il faut l'accepter et chercher la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire? Et comment? Comment je dois avoir la victoire sur ça? Je vais faire un petit zoom sur Jésus et la parole, son discours. Le discours de Jésus, il est transparent et honnête. Il n'y a pas de ruse, pas de mensonge, pas de manipulation, pas de flatterie. Transparent, honnête. Ça vous fait penser au pasteur, droit, clarté, autorité. Il a un discours franc. Il dit les choses. Pas forcément brutal, attention, mais franc. Quand il dit à la femme au puits, voilà, t'as 5 maris, ceci, cela, il lui a dit les choses cash. Sans pour autant être dans la méchanceté ou autre chose. C'était juste, voilà, c'est comme ça. Il a des paroles pleines de grâce. Alors là, en tant que Français, le suivant, c'est pour nous. Il ne se plaignait jamais. C'est dur pour les Français. Mais ça va changer, n'est-ce pas? Il se plaignait jamais parce qu'il sait que les voies de Dieu sont parfaites. Son discours était édifiant, que ce soit directement, un encouragement, ou indirectement, par une parabole, ou par des questions. Quand il répondait par une question, ça pouvait aussi faire réfléchir et être édifiant. Son discours avait de la valeur. Il parlait des choses importantes. Pas de commérage. C'était approprié. Il y a aussi le fait que, parfois, en tant que chrétien, on se veut hyper spirituel et citer des versets à tout bout de champ, c'est pas le but. Jésus n'était pas comme ça. Quand il avait une parole, elle était remplie, forcément, de bon sens. Et c'était à bon escient. Chaque réponse était parfaite. Et il y a aussi, parfois, ces réponses, c'était des silences. Ces silences étaient parfois plus éloquents que ces paroles. Par exemple, devant le souverain sacrificateur ou devant le gouverneur, quand il a été accusé, il ne répondait pas. Il restait dans le silence. Et ça m'a fait penser au silence que nous devons à Dieu, le silence de respect. Je pensais encore une fois à Arnaud, avec son message la semaine dernière sur l'Apocalypse, où il disait qu'à un moment, dans le ciel, il y a ce grand silence. Et il évoquait que, voilà, quand il y a un grand silence, parfois, je sais pas, dans la forêt, il n'y a plus un bruit, d'un coup, on dit qu'il va se passer quelque chose. Et j'ai découvert un autre aspect du silence, c'est aussi le côté impressionnant, C'est difficile de mettre un mot dessus, mais hier j'ai eu l'occasion d'aller au Stade de France. J'ai été voir le match rugby France-Écosse. Première expérience, c'était magnifique. Mais ce qui était impressionnant, c'est qu'à un moment donné, je ne savais pas, moi je n'ai jamais été, mais il y a, quand y a un des joueurs qui doit tirer, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un essai, non, ce n'est pas l'essai, enfin si peut-être, bref, peu importe. Voilà. Il y a des petites affiches, je ne les avais pas vues au départ, mais ils mettaient juste respecter le buteur. Et tout d'un coup, il n'y a plus un bruit. Alors, vous avez vu, le Stade de France, il n'était pas plein, mais quand même, il y avait du monde. Et il n'y a plus un bruit. C'était un peu flippant. Parce qu'on se dit, il y a toujours quelqu'un qui est en train de tousser, il y a toujours quelqu'un qui est en train de parler, il y a toujours un bruit. Et là, il n'y avait pas un bruit. Bon, il faisait plus le silence quand c'était le Français qui tirait que quand l'Écossais, c'était pas très juste. Mais quand même, il y avait déjà le volume baissait. Mais c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Et je me suis dit, bah dis donc, si on est capable de donner ce respect juste à un buteur, quel respect on doit donner à Dieu? Si on est capable de faire ce silence pour simplement un petit tir au but, très important, qui nous a donné la victoire. Mais voilà, à Dieu, ce silence. Et c'est vrai que c'est. Du coup, je me suis imaginé en me disant ça fois 10 000, parce que. Enfin, même plus, des millions, puisqu'on va être beaucoup plus. Et ça va être en face du Jésus majestueux, donc que Arnaud justement a un peu décrit la semaine dernière dans Apocalypse. Ce Jésus majestueux, ça va être quelque chose de très très fort. Je suis dans les temps, ça va. Donc voilà, donc ça c'était un peu la description, enfin la description, essayer de détailler un petit peu ce Jésus qui était sur cette terre, ce à quoi Dieu nous appelle à ressembler. Il nous dit d'être à son image. Donc voilà, on a du travail, mais encore une fois, c'est pas en se disant tous les matins, allez, ça je vais le faire, je vais être plein de patience, je vais le machin. Enfin oui et non, on peut le dire, mais c'est pas par nos propres forces. C'est en se remettant en Christ, c'est en se remettant avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut y arriver. Et ça, c'est vrai que c'est important, sinon on va perdre courage et on va juste s'user et on va être des chrétiens fatigués et fatigants. Parce qu'on sera toujours déçu de soi-même et voilà. Donc c'est vraiment important de voir notre exemple, de voir ce vers quoi on doit tendre. Enfin, il faut un but, un objectif, sinon on ne sait pas où on va. Donc c'est important de le voir. Alors encore une fois, hein, c'est des choses que vous avez entendues, mais je veux vraiment vous les redire. Je veux nous les redire. Parce que c'est important de se souvenir qui était ce Jésus et qui est ce Jésus aujourd'hui. Enfin, je voudrais qu'on regarde aussi quelques versets où on va parler un peu du Jésus, un peu plus, enfin, j'ai envie de dire de manière spirituelle, dans le sens où c'est moins concret, par exemple. Enfin, concret. Désolée, j'ai pas toujours les bons termes, mais vous allez comprendre. On va prendre Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est que Jésus, il est la parole. Il est aussi la vie. Puisqu'il est dit ici, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc ça rappelle forcément ce verset qui dit, tu es une lampe à mes pieds, tu es le chemin, la vérité, la vie. Et là, on le retrouve. Donc Jésus, c'est la parole, c'est la vie, c'est la lumière des hommes. Dans le même chapitre, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc là, on retrouve ce qu'on a pu citer tout à l'heure, où la parole s'est faite homme et cette parole est pleine de grâce et de vérité. Jésus, c'est aussi celui qui fait connaître Dieu. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans Philippiens 2, c'est le passage qu'on prend souvent pour la Sainte Cène. Philippiens 2, 5 à 11, on ne va pas forcément tout lire, mais simplement le début. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, etc. Donc le passage est très très bien. Je m'arrête juste sur ce verset qui dit, Encore une fois, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc encore une fois, il y a des centaines, enfin des centaines, peut-être je m'avance, de nombreuses fois où la Bible nous exhorte à être comme Jésus, à être semblable à Dieu, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et donc encore une fois, c'est ce à quoi il nous appelle. Là encore une fois, on retrouve le fait que Jésus n'était pas centré sur soi ou son bien-être, mais vraiment il mettait sa position, ses avantages de côté pour mettre l'autre en valeur. J'en ai fait une petite parenthèse tout à l'heure, mais si on avance juste au verset 3 et 4 du même chapitre, hein, Philippiens 2, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On le retrouve encore une fois là, comme tout à l'heure on disait, que Jésus faisait passer les autres avant, qu'il les estimait plus important. Comme je disais tout à l'heure, c'est la base des bonnes manières. C'est un peu le résumé. Faire passer l'autre avant soi. Qu'est-ce que l'autre, ouais, l'autre a besoin de quoi? Après, il ne faut pas tomber dans la psychose à chaque fois. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un équilibre, comme beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Mais c'est quelque chose d'important, je pense. Vraiment, enfin, moi, ça m'a vraiment parlé par rapport à ça. Quand on continue dans ces versets, on voit encore une fois que Jésus est ce serviteur, que Jésus était, il a vécu, il a accepté la croix, il a accepté la mort. Et la conséquence de tout ça, quand on lit à la fin, c'est que Dieu l'a élevé et a donné une puissance au nom de Jésus. Je ne sais plus si c'est le verset 11 ou pas. 9, voilà. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je réfléchissais à ça, le fait que pourquoi est-ce qu'on utilise le nom de Jésus? Pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Le nom de Jésus ou le sang de Jésus. Il est puissant. Pourquoi? Parce qu'il a été dans l'obéissance. Il a été tout ce qu'on a dit avant, et même plus, parce qu'on n'a pas toujours les mots, et je sais pas. Comme je disais, on pourrait en parler éternellement. Donc parce qu'il a été tout ça, il a été dans l'obéissance parfaite. Et du coup, Dieu l'a mis en position d'autorité. Dieu lui a donné la puissance. Et ce nom de Jésus, effectivement, est particulier, ce nom de Jésus-Christ. Il est fort. Dans Colossiens 1, on peut voir que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. En lui, on trouve la plénitude. C'est lui qui nous réconcilie avec le Père. C'est lui qui a permis qu'on ait la paix entre le Père et nous. Et il y en a tellement d'autres, mais c'est, rien que ça, c'est fou. Enfin, ce verset qui dit, ouais, il y avait, pardon, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça nous dépasse complètement. On le comprend, on l'entend, mais en fait, ça nous dépasse. Donc il y a ce Jésus auquel on peut s'identifier entre guillemets, parce qu'on voit à peu près avoir de la compassion, avoir de la patience, on sait à peu près ce que c'est, tout ça. On a du mal à le mettre en pratique, mais on voit. Mais par contre, c'est sûr, ce Jésus en qui est toute chose, le premier de la création, etc., ça c'est un peu le Jésus qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Ce Jésus Dieu. Je finirai avec un verset. Enfin, non, pas tout à fait. Je dirais juste que dans Hébreux 1 et 2, on voit aussi Jésus est héritier de toutes choses, et on revoit encore que par lui le monde a été créé, mais juste le fait que Jésus soit héritier et qu'il veuille partager aussi tout ça avec nous. Donc voilà, Jésus n'est pas n'importe qui, vous le saviez, bien évidemment, mais voilà, on a cet exemple de Jésus humain, homme, pleinement homme. Dieu nous a donné cet exemple pour qu'on puisse le suivre. Et il nous a donné aussi ce Jésus que nous pouvons adorer. Et voilà, donc je voudrais juste vous encourager à penser à ça pour cette année qui commence, qui recommence, on va dire. Que voilà, Jésus est l'être suprême, si je puis dire ça comme ça. Mais c'est aussi cet ami proche, c'est aussi ce Dieu bienveillant. Et ça m'a encouragée en me disant, Jésus, il est parfait, il nous a laissé un exemple concret. C'est pas c'est pas flou, c'est pas, enfin, c'est complexe dans le sens où c'est tellement simple que ça devient complexe, mais c'est pas, ouais, c'est pas zarbi, c'est pas les chakras là, je sais pas trop quoi, moi j'ai jamais rien compris à ça. Je me suis pas penchée, vous allez me dire, mais voilà, enfin c'est des choses vraies, c'est des choses de tous les jours. Et je nous encourage à marcher dans ça, et encore une fois, avec l'aide du Saint-Esprit. Et je voudrais terminer avec ça, qui est, vous, beaucoup la connaissent, c'est la lettre d'amour du Père. Et en fait, je voulais la lire sur vous, enfin, je voulais vous la lire juste pour vous bénir, que ce que c'est Dieu vous dit pour cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas la lettre d'amour du Père, c'est en fait, ils ont pris, c'est que des versets bibliques. Et ils les ont mis les uns à la suite des autres. Alors vous allez me dire, oui, un verset sorti de son contexte, c'est un prétexte. Mais bon, là, ça va, vous allez voir, c'est pas anti-biblique. Donc c'est juste une lettre, des versets, et qui, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Et voilà, j'aurais juste voulu vous la lire pour terminer. Pour terminer. Mon enfant. Si je vous encourage juste à vraiment vous l'approprier. Je sais que c'est difficile, vous venez déjà d'écouter un petit moment là. D'écouter quelqu'un lire, c'est pas toujours facile. Alors, juste, faites ce que vous voulez, vous pouvez garder les yeux ouverts, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez, enfin voilà, mais juste, essayez de vous l'approprier. Et que vraiment, alors je sais que j'ai pas la voix de Dieu, mais essayez de vous dire que c'est vraiment Dieu qui vous dit ça, puisque tout est biblique. S'il y en a qui doutent, je vous donnerai la feuille avec les versets qui vont avec. Mais vraiment que vous le preniez, que ce soit un encouragement pour vous. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'étais pas une erreur. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. J'ai été déformé par ceux qui ne me connaissaient pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre pourra jamais te donner, car je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer, et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tu es le peuple que j'ai choisi. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches avec tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire, car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire plus pour toi que tu ne pourrais probablement imaginer, car je suis ton encouragement le plus grand. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. J'effacerai toute larme de tes yeux. Et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Car dans Jésus, mon amour pour toi est révélé. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois. Et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison, il y a tant de joie dans le ciel devant la repentance d'un pécheur. J'ai toujours été le Père et serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime, Dieu Tout-Puissant.